Sur ma route, sur RTVFM, une émission réalisée en partenariat avec le pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse.
Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'RTVFM dans l'émission Sur ma route. Je vais tout d'abord présenter nos animateurs qui vont m'accompagner pour cette émission. Nous avons Dorcas, bonjour Dorcas.
Bonjour Florian.
Nous avons aussi Alexandre, bonjour Alexandre.
Bonjour Florian.
Et nous avons deux invités par téléphone puisque cette émission se passe en distanciel, donc avec le capitaine Houdin, donc de l'escadron départemental de sécurité routière, donc de Vaucluse. Bonjour Monsieur Houdin.
Bonjour Florian.
Et nous avons aussi Monsieur Capgras qui est le directeur régional de la prévention routière Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour à vous.
Bonjour.
Nous allons tout d'abord commencer peut-être par la présentation avec capitaine Houdin. Peut-être qu'est-ce que le DSR, quel est son rôle et quelles sont ses missions?
Alors le DSR, c'est l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie. C'est l'échelon de commandement administratif et opérationnel de l'ensemble des unités de sécurité routière de Vaucluse, qui comprend le peloton d'autoroute à Orange, qui couvre donc la 7 et une partie de la 9, qui comprend également la brigade motorisée d'Avignon qui se trouve à Montfavet, la brigade motorisée d'Orange et la brigade motorisée de Beaumet. Voilà, donc ça représente 72 militaires, dont 39 motocyclistes et une équipe rapide d'intervention intégrée au peloton avec la Mégane RS. Voilà. Concernant les missions, elles sont assez variées. Je dirais qu'on a pour mission d'abord la sécurité des mobilités. Donc ça se traduit par les escortes essentiellement, les transports de fonds, les détenus, les autorités, les cours cyclistes. Nous avons pour mission aussi les contrôles des flux. Donc là, c'est un aspect un peu plus judiciaire du contrôle routier sur la prévention des cambriolages avec des fouilles de coffres, des recherches de personnes ou toute autre recherche. La lutte plus générale contre l'insécurité routière avec les infractions et la répression des infractions génératrices d'accidents graves. Nous avons aussi pour mission la police des transports, donc le contrôle des poids lourds avec des concours techniques sur les accidents de matières dangereuses ou de transport du public. Nous avons également des missions de police judiciaire qui peuvent concerner les fraudes au péage, les vols de fret, les vols à la roulotte. Et puis, enfin, je dirais, des actions de prévention, des actions de reprise de guidons, des pistes d'éducation routière et de représentation dans des foires ou des salons. Voilà pour le DSR.
Donc, ce qui veut dire qu'en termes de sécurité routière, finalement, ça représente très peu de temps par rapport à votre planning.
Alors, en fait, au niveau du planning, ça occupe l'intégralité, je dirais, de notre activité. Parce que même les opérations de contrôle des flux, qui, elles, pourraient avoir un aspect plus judiciaire, se traduit par des missions de sécurité routière, sachant que toute la délinquance passe par la route. Donc, finalement, la sécurité routière est aussi un levier de la police judiciaire. Voilà.
On reviendra sur le terme délinquance. J'ai envie de poser une question à Olivier Capgras, donc le directeur régional de l'Assaut Prévention Routière. Pouvez-vous nous présenter les différentes missions et le rôle de la prévention routière en PACA?
Oui, bien sûr. Avec plaisir, Dorcas. Alors, nous, on est une association. On est souvent confondu avec la sécurité routière, qui est un service de l'État et qui est porté par la préfecture. Nous, on est bien une association qui existe depuis 70 ans maintenant. On est une des premières associations en France à avoir été déclarée d'utilité publique dans les années 50. On a fait partie des pionniers en termes de prévention, d'action de sensibilisation auprès de tout public, puisque ça part de la maternelle pour aller jusque dans les maisons de retraite, en passant par les entreprises, les universités, les lycées, et j'en passe. Et on fait donc comme ça au quotidien des actions de sensibilisation sur tout type de thématiques. On n'est pas forcément nous spécialistes du vélo, de la problématique alcool, mais on va traiter comme ça de manière assez large toutes les problématiques de sécurité routière avec un seul objectif, c'est travailler sur l'insécurité routière et améliorer sans cesse la sécurité sur la route.
La délinquance, comme le disait le capitaine Houdin, vous avez travaillé sur la délinquance routière?
Oui, c'est un terme qui est effectivement usagé, la délinquance routière, mais pas que, c'est aussi les négligences routières. Donc c'est vrai que la délinquance routière, c'est ce qu'on voit le plus, mais les accidents ne sont pas liés qu'à la délinquance routière. On a parlé, je crois, des départs en vacances, et c'est vrai qu'il peut y avoir des négligences qui génèrent parfois de l'accidentologie de manière assez prégnante.
Maintenant, je vais vous poser une petite question concernant notre thème, donc les vacances au volant. Une question pour vous, monsieur Capitaine Houdin, et également une question pour vous, monsieur Capgras. Avant de faire un long trajet pour son départ en vacances, y a-t-il des précautions et des vérifications à effectuer sur son véhicule ?
Alors oui, bien évidemment, toutes les vérifications d'usage, hein, pression des pneumatiques, vérifier les éclairages, les niveaux d'huile et de tous les liquides du véhicule, s'assurer que son chargement soit bien arrimé, qu'on n'ait pas de gêne à la visibilité, c'est-à-dire donc libérer les rétroviseurs, et au besoin faire, si possible, la révision du véhicule avant de partir et les contrôles techniques si nécessaire, quoi.
J'aurais presque envie de rajouter autre chose. Mais...
Ah ben allez-y.
Non, mais il y a effectivement le véhicule, c'est très important, hein, je pourrais demander dans ce sens-là, mais il y a également le conducteur et l'état du conducteur avant le trajet. On va malheureusement trop souvent des gens partir en vacances pour des longs trajets avec une carence de sommeil, soit parce qu'ils se sont couchés trop tard, parce qu'ils ont fini les bagages très tard, soit parce que c'est le premier jour des vacances et qu'on a fait un repas arrosé et qu'après on prend le volant, soit parce qu'au contraire on se lève très tôt pour partir faire son long trajet. Donc là derrière, il y a la question de la somnolence, évidemment. Donc il est très très important de privilégier le sommeil, de faire attention à bien se reposer avant de partir. Et après, pendant le trajet, forcément, ménager des temps de pause. Mais voilà, cette préparation du conducteur, elle est souvent négligée et elle est très très importante.
Alors maintenant, une question qui s'adresse peut-être un petit peu plus pour le capitaine Houdin. Est-ce que vous avez chaque été des exemples de mise en danger d'autrui ? Donc on va parler peut-être voiture surchargée, pneus dégonflés, colis sur barre de toit mal fixé, vélo mal fixé et bien d'autres. Est-ce que vous le constatez au quotidien l'été sur les routes et autoroutes de notre département ?
Ah oui, effectivement, hein, ce genre d'événement est récurrent. Ça va du vélo mal fixé ou qui est accroché par des tendeurs et non des sangles. Donc du coup, les vélos se détachent et viennent percuter des véhicules derrière, qui entraîne un freinage d'urgence pour l'ensemble des véhicules et peut aller jusqu'à un carambolage. Si tant est que parfois le vélo percute carrément les véhicules derrière. On a des problèmes aussi de pneumatiques qui éclatent. Hein. Donc là encore, ça provoque un gros freinage à l'arrière avec un risque de carambolage. Et puis tout autre objet divers et variés, mal arrimés, qui sont perdus et projetés sur autoroute, par exemple.
Et est-ce que les remorques sont aussi un problème l'été, on suppose, pour le transport, tout ce qui est peut-être vélo, caravane ?
Les remorques, non, si elles sont bien attachées, généralement on n'a pas de grosses difficultés avec les remorques. C'est plutôt, je vous dis, le type d'objet classique, c'est le vélo qui est attaché avec des tendeurs. Voilà. Alors que la remorque, bon, bah, elle a quand même un attache caravane, elle a quand même une flèche qui est prévue et aux normes. Donc on a moins de soucis quand même avec les remorques. On peut avoir une perte de contrôle du véhicule liée à la remorque, mais rarement au fait que ce soit la remorque. Qui se détache, quoi.
Petit rappel sur la remorque, s'il y a trois voies dans le même sens circulation sur l'autoroute, une remorque qui fait plus de 7 mètres de long, elle a le droit de circuler sur la voie la plus à gauche. C'est un petit rappel parce que j'ai l'impression parfois que je vois des véhicules qui ne devraient pas être sur la voie la plus à gauche.
Alors la voie la plus à gauche, vous ne devez pas l'emprunter si vous êtes en dessous de 80 km/h. Voilà, après, il n'y a pas de véhicule particulier qui ne peuvent pas l'emprunter, quoi.
D'accord.
Voilà.
Alors une petite question, en cas de panne sur l'autoroute, y a-t-il un comportement idéal à adopter ?
Oui, y a évidemment un comportement à privilégier qui est celui de la prudence. Ça paraît idiot de dire ça, mais c'est vrai que quand on a une panne, un accident, on a parfois tendance peut-être des fois c'est emporté par le stress, donc c'est vrai que c'est facile aussi à dire, hein, de rester calme, mais c'est la première des choses. Sortir du véhicule par l'accotement, côté accotement, évidemment pas sortir côté route ou autoroute. On sort côté accotement, on se munit de ses gilets de sécurité. On a parlé tout à l'heure de la préparation. Si je peux juste me permettre cette petite parenthèse, préparation de voyage, il y a aussi tout le matériel que l'on doit mettre dans son véhicule. Le gilet en fait évidemment partie. Mais il y a plein d'autres choses auxquelles il faut penser et qu'on oublie parfois. Le permis de conduire, ça paraît idiot. Le certificat d'immatriculation, le triangle également est important. Une route de secours, vérifier sa route de secours. Voilà, juste pour faire ce petit rappel. Qu'il y a
et le gilet, peut-être, M. Capgras.
Et le gilet, c'est ce que je disais. Je l'ai dit, oui, je crois, Mme Dorcas. Donc, effectivement, le gilet, et pour en en revenir à votre question, est nécessaire quand on est dans une situation de panne ou d'accident. On se met son gilet, on passe par-dessus l'accotement et on se met sur le bas-côté si on est sur autoroute. Et on va signaler et se signaler au travers d'une borne d'appel d'urgence si on en est équipé, enfin, si le réseau en est équipé, sinon on appelle le 112 pour signaler rapidement sa panne. Et faire intervenir un dépanneur agréé qui fera ça dans les meilleures conditions et en toute sécurité.
Une petite question encore pour Monsieur Houdin ou Monsieur Capgras. On avait parlé rapidement des voitures surchargées. Du coup, quelles sont les conséquences d'une voiture surchargée ?
Les voitures surchargées, vous allez avoir une augmentation de la masse du véhicule. Donc, par conséquent, deux problématiques. On peut avoir un souci éventuellement avec le freinage qui pourrait être mal adapté par rapport aux prescriptions des constructeurs. Et par conséquent, augmenter la distance de freinage. Donc voilà. Donc si vous voulez, je pense qu'il peut être intéressant de rappeler la distance d'arrêt. La distance d'arrêt, c'est le temps de réaction plus la distance de freinage. Donc la distance de freinage, pour la connaître, on l'évalue en gros, c'est la dizaine multipliée par lui-même. Donc à 70 km/h. La distance de freinage, c'est la dizaine multipliée par lui-même, divisée par deux. Donc à 70 km/h, vous avez à peu près 24,5 mètres de freinage. Voilà.
Oui.
Donc si vous augmentez cette distance, bah forcément le risque d'accident est bien plus élevé du fait de la masse plus importante du véhicule.
Alors est-ce qu'il y a... peut-être vous voulez répondre, peut-être, M. Capgras.
Oui, c'est vrai. Non, mais j'abonde là-dessus sur cette problématique du véhicule alourdi, qu'il soit avec un chargement dans le coffre, soit avec un coffre de toit, soit avec une remorque aussi, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure de remorque. Et il est clair qu'il faut bien avoir en tête que son véhicule va accélérer moins vite et freiner moins vite. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper de manière plus importante et donc aussi allonger les distances de sécurité par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est aussi un réflexe à avoir.
Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une très courte pause. On va se retrouver dans quelques instants donc pour cette émission Sur ma route. Je rappelle le thème de l'émission, c'est les vacances au volant. On va se retrouver donc juste après une pause musicale avec qui dit vacances d'été dit aussi bouchons sur les routes et autoroutes. Voici donc une chanson de circonstance puisque sa traduction littérale de l'anglais signifie embouteillage estival. On écoute tout de suite The Underground Project Summer Jam.
As much as we can. much as we can.
Sur ma route, sur RTVFM, une émission réalisée en partenariat avec le pôle sécurité routière de la préfecture de Vaucluse.
Et de retour sur l'antenne d'RTVFM après ce titre, The Underground Project Summer Jam. Vous êtes toujours dans l'émission Sur ma route. Le thème donc de cette émission, c'est les vacances au volant. Merci donc de nous rejoindre. Nos invités pour cette émission, on va le rappeler, le capitaine Houdin de l'escadron départemental de sécurité routière qui est toujours avec nous. Nous avons aussi Monsieur Capgras, donc le directeur régional de la prévention routière Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc après ces quelques questions, on va peut-être maintenant s'intéresser à la moto. Et donc c'est Alexandre.
Une question plus particulièrement pour le capitaine Houdin. Y a-t-il des dispositions particulières à prendre pour un départ en vacances en moto ?
Oui, alors je dirais que pour un départ en vacances en moto, on a les mêmes vérifications à faire sur le véhicule que pour une voiture, hein, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, donc la pression des pneumatiques, les niveaux des liquides de frein, niveau d'huile, etc. La particularité supplémentaire, ce serait de prévoir un équipement de rechange, un équipement de pluie également, au cas où, d'avoir une tenue moto bien adaptée, casque, gants, bottes, blousons, lunettes, etc. Et puis, l'idéal serait d'avoir un moyen de communication entre le passager et le pilote, un téléphone portable également, en cas de panne. Et puis, je dirais, le plus important en moto, c'est de prévoir son itinéraire. Parce qu'en moto, on a un réservoir plus petit, donc on a besoin aussi de connaître les emplacements des stations essence, les points de ravitaillement et prévoir aussi des lieux d'hébergement. Donc, prévoir son itinéraire au préalable. Voilà la particularité pour les motos.
Alors, on a parlé de pause tout à l'heure, pause fréquente, c'est ce que disait le directeur région Olivier Capgras. Mais y a-t-il une différence entre les jeunes conducteurs et les conducteurs seniors ? Doivent-ils s'adapter différemment sur l'autoroute ou sur les routes normales ? Si Olivier Capgras veut répondre.
Oui, il y a une différence d'âge, déjà. C'est l'humour. J'ai un très mauvais humeur. Il y a une différence, évidemment, physiologique, c'est certain. Il peut y avoir aussi une différence souvent liée à la prise de médicaments, qui est plus fréquente chez les seniors, et qui nécessite une vigilance encore plus accrue au niveau de la somnolence. Il peut y avoir des comportements, on va dire, de festivité chez les jeunes qui sont plus accru également, et donc là aussi qui viennent toucher à la problématique de somnolence, toujours si on est en carence de sommeil pour prendre la route. Mais de manière générale, ce que j'ai envie de dire pour toutes les personnes qui prennent la route pour des longs trajets l'été, c'est de faire attention finalement à cette problématique de somnolence qui représente quand même un accident mortel sur 5 sur autoroute. Donc on est vraiment sur une question qui est très importante. On a parfois tendance peut-être aussi, quand on est un peu plus jeune, à se dire que mais finalement on va résister au premier bâillement, etc. Ou se dire, quand on est senior, ça fait 40 ans que je conduis, j'ai aucun problème, je sais très bien conduire, il n'y a pas de souci. Vous voyez, finalement, c'est peut-être pas pour les mêmes raisons, mais cette problématique somnolence et cette non-prise en compte du danger de la somnolence est peut-être dramatique.
Et est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos, capitaine Houdin, justement ? Est-ce que vous le constatez, vous, au quotidien ?
Ah, tout à fait, je partage absolument les propos de Monsieur Capgras. C'est vrai que le manque d'expérience, effectivement, peut faire chez les jeunes se faire surprendre par la somnolence. À l'inverse, les aînés seront peut-être un peu plus raisonnables là-dessus, expérimentés, et puis s'arrêteront plus fréquemment, ou au contraire, auront peut-être un excès de confiance, eux, en se disant, ça m'est jamais arrivé, pourquoi ça m'arriverait, quoi. Donc, je partage complètement les propos que M. Capgras a tenus, oui.
On va poser maintenant une autre question, on va parler d'une prévision de circulation. On connaît tous bison futé, on en entend parler régulièrement. Est-ce que les prévisions de bison futé aident au quotidien dans le cadre de la prévention ? Alors, une question donc pour Monsieur Capgras, et plutôt contrôle pendant la période estivale. Donc, est-ce que ces prévisions de circulation aident au quotidien, sur le cadre de ces préventions ? Donc, est-ce qu'elles vous aident au quotidien sur ces contrôles ou sur les préventions pendant la période estivale ?
Alors moi, au niveau de la prévention, j'ai envie de dire non, pas au quotidien. Ces prévisions-là, on a plutôt des actions de sensibilisation et des campagnes de prévention, on va dire saisonnières, qui ne sont pas quotidienne. On arrive à une période de départ en vacances, on va travailler sur les départs en vacances, sur la problématique alcool, sur la problématique stupéfiant également, tout au long de la saison, mais c'est pas au quotidien qu'on va regarder bison futé. En revanche, pour la personne qui prend la route, c'est vrai qu'on lui conseille de regarder les prévisions de bison futé pour préparer, comme on l'a dit tout à l'heure, son trajet, pour éviter de se retrouver dans des situations compliquées, à l'arrêt sur une autoroute pendant des heures. C'est jamais très confortable, surtout s'il y en a des enfants ou des personnes vulnérables dans la voiture. Donc bison futé est un très bel outil, mais que moi, à titre personnel, en tant que directeur régional d'une association de prévention, je n'utilise pas au quotidien.
Et pour le capitaine Houdin, est-ce que vous vous en servez au sein de la gendarmerie, donc le SDR de Vaucluse ?
Écoutez, ma réponse sera sensiblement similaire. Hein. C'est vrai qu'on tient compte de beaucoup d'indicateurs, donc bien évidemment, bison futé, c'est intéressant. Mais on dispose également d'autres moyens de contrôle, hein, avec des dispositifs de comptage sur les autoroutes, des choses comme ça. Et puis, de toute façon, nous, en termes de contrôle, on va systématiquement mettre en place des dispositifs pour les départs et retours de vacances, pour les chassés croisés, pour les week-ends prolongés avec un pont. Et quelle que soit la couleur annoncée d'ailleurs par bison futé, hein, donc systématiquement on va avoir des thématiques comme ça qui reviennent à l'année, et on va surtout programmer notre action par rapport à l'accidentologie du moment. Si on a des problématiques de vitesse, on va accentuer sur les contrôles de vitesse, et si on a des problématiques autres d'alcoolémie, on va faire davantage de contrôles d'alcoolémie, etc. Ce ne sera pas le seul indicateur, et on n'est pas au quotidien non plus sur bison futé pour savoir s'il y a lieu de faire un contrôle ou pas, quoi.
À présent, une petite question sur la prévention par rapport à la vitesse. Sur l'autoroute, rouler à une vitesse supérieure à 130, est-ce que cela ferait gagner beaucoup de temps sur un trajet ?
Alors, bon, je peux répondre, hein. Donc, si vous voulez, bon, sur un trajet très court, c'est bien évident qu'il n'y a absolument aucun intérêt, pas de gain de temps. Sur un trajet plus long, on pourrait penser qu'effectivement il y aurait un gain de temps, mais ce serait une erreur, parce qu'en fait on va rouler de manière plus irrégulière, avec davantage d'accélération, de freinage, de ralentissement. On va en plus augmenter de manière considérable les risques d'accident. Donc si véritablement on veut gagner du temps, le maître mot en fait c'est de la régularité sur tout son parcours, quoi, hein, et non pas les excès de vitesse. C'est une fausse croyance que de croire qu'on va gagner du temps.
Oui, c'est vrai que je suis complètement en phase avec ça. Et du coup, c'est vrai qu'on voit aussi des comportements parfois à risque l'été, en période de fort trafic, pour essayer de gagner une place ou deux places en changeant de voie. Je passe à gauche, je passe à droite, pour essayer de voir. Bon, ça, c'est clairement des comportements qui sont à risque, hein, et parce qu'il peut y avoir, justement, on parlait des motos tout à l'heure, des motos qui arrivent et vous pouvez renverser en changeant de fil de manière un peu brusque un motard, mais c'est aussi des comportements finalement qui génèrent plus de bouchons qu'autre chose, puisqu'ils vont créer des effets accordéon, générateurs aussi là, de freinage et donc potentiellement de choc.
Pour continuer, on a parlé tout à l'heure précédemment de surcharge au niveau du véhicule. Y a-t-il des installations particulières en tant que conducteur et au niveau du matériel que je peux mettre à l'intérieur de mon véhicule, par exemple mon landau, mon panier, mes affaires de plage, est-ce que vous avez des conseils en ce sens ? Au niveau de l'installation.
Oui. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur le chargement de son véhicule, aussi bien dans l'équilibrage du chargement, des coffres, de toit ou même du coffre classiquement. C'est vrai qu'on voit trop souvent des véhicules qui ont été mal chargés, donc qui sont en total déséquilibre, ce qui peut entraîner malheureusement des pertes de contrôle plus faciles du véhicule, où on parlait tout à l'heure de distance de freinage, des distances un peu compliqué. Et puis il y a également tout ce que l'on met dans l'habitacle du véhicule, et là aussi il faut bien avoir en tête qu'une simple bouteille d'eau sur un freinage un peu brusque peut se transformer en objet très dangereux à l'intérieur de l'habitacle. Donc tout ce que l'on met à l'intérieur du véhicule doit être bien arrimé, et donc on doit limiter au maximum tous les objets que vous avez à l'intérieur du véhicule. Ça c'est une certitude.
Ça devient des projectiles, c'est ce que vous voulez tout dire, monsieur Capgras? La bouteille d'eau.
Oui, tout à fait, oui. La bouteille d'eau peut être envoyée sur le sur un freinage, sur le passager ou même sur votre enfant. Et là, ça devient très très dangereux. On voit des choses qui sont parfois, je pense à des parapluies, je pense à des boules de pétanque. Donc là, c'est le summum, mais il est clair qu'il faut mettre tout ce que l'on peut dans le coffre et tout ce qui est dans l'habitacle, il faut l'arriver.
Et justement, Capitaine Houdin, ça vous le constatez aussi au quotidien, malheureusement, lors d'accidents ?
Oui, tout à fait. Effectivement, hein, c'est un très bon conseil de mettre dans le coffre ce qui pourrait être projectile et d'arrimer les autres objets. Mais je pense aussi et surtout aux personnes, parce que là, ça m'amène un peu. Alors, c'est plus vraiment du chargement de matériel, mais aux personnes qui doivent aussi s'attacher, qui deviennent elles aussi un projectile et donc qui, en cas de mauvaise position, peuvent rendre aussi la ceinture inefficace et eux-mêmes être projeté en cas d'accident. C'est effectivement le genre d'accident qu'on constate. Oui.
Ça rejoint un petit peu la question qu'on voulait vous poser. Comment bien s'installer dans une voiture en mouvement ? Enfin, ça paraît logique, mais on voit sûrement des positions dans les voitures qui ne sont pas adaptées.
Les pieds, par exemple, sur le tableau de bord.
Exactement.
Oui, tout à fait. Alors, bon, je pense que les véhicules sont conçus d'une certaine manière avec des crash tests en cas d'accident, mais pour une position correcte, hein, c'est-à-dire donc un occupant assis normalement dans le véhicule et la personne qui met, puisque vous parliez effectivement des pieds sur le tableau de bord, systématiquement, elle expose ses jambes à un choc, à être broyée en cas d'accident, alors même que si elle se tenait correctement, le dispositif de ceinture et d'airbag pourrait la protéger. Donc si l'airbag se déclenche en plus avec les jambes posées sur le tableau de bord, on imagine bien, en fait, je dirais, les dégâts que ça peut occasionner sur la personne, quoi.
Une question à M. Capgras. Est-ce que vous aussi, dans le cadre de la prévention routière, au quotidien ou lors d'ateliers, est-ce que vous en parlez justement de ces positions à avoir dans une voiture en mouvement ?
Oui, ça nous arrive d'en parler, mais c'est vrai que je voulais rebondir sur les propos par rapport aux personnes et à la position, mais c'est aussi par rapport aux enfants. Et on voit malheureusement encore en France trop d'enfants qui ne sont pas attachés ou mal attachés dans un véhicule. On a fait une enquête en 2019 qui nous avait montré qu'il y avait 2 enfants sur 3 qui étaient mal ou pas attachés dans leur véhicule. Et d'ailleurs, on pousse aujourd'hui, notre association pousse une proposition qui serait de passer le taux de TVA des sièges isofix à 5,5 pour en favoriser la multiplication et l'achat, parce que c'est des sièges là, qui sont encore aujourd'hui très onéreux, mais qui en tout cas, ont l'avantage de vraiment sécuriser l'enfant à bord du véhicule. Mais ça, c'est quand même un point essentiel. Et on sait que sur des longs trajets, avoir des enfants dans un véhicule, ça peut être parfois compliqué parce que les enfants sont vite lassés de rester assis. Donc si on ne veut pas complètement les abrutir avec une tablette ou un téléphone, c'est vrai que c'est peut-être bon de privilégier et d'accentuer encore les pauses pour leur permettre d'aller dégourdir les jambes et une fois qu'ils sont dans le véhicule, de rester attachés et bien attachés. Voilà. C'est un point très important aussi parce qu'on voit malheureusement trop d'accidents encore aujourd'hui avec des enfants à bord.
Oui, du style de la ceinture de sécurité sur la jugulaire de l'enfant parce qu'il n'y a pas de réhausseur ou pas de réhausseur adapté.
Tout à fait, tout à fait. Il faut juste avoir un chiffre en tête quand même. Par semaine en France, il y a un enfant qui meurt et 30 qui sont hospitalisés alors qu'ils étaient passagers d'une voiture.
Oui, c'est impressionnant. Je ne sais pas si on prend conscience de ce chiffre.
À présent, une question pour M. Capgras à laquelle vous pourrez rebondir, Capitaine Houdin, par la suite. Comment sensibiliser les jeunes conducteurs aux dangers de l'alcool et des drogues et quels sont leurs effets sur la conduite ?
Les effets sur la conduite aujourd'hui, malheureusement, on les connaît. Hein, c'est des effets qui sont dramatiques parce qu'ils multiplient, selon la consommation, par 10, par 30, les risques d'accidentologie. C'est encore, pour les jeunes et les moins jeunes, la première cause d'accidentologie, hein, l'alcool. Et l'usage du stupéfiant, parce qu'aujourd'hui on voit de plus en plus aussi, on va dire, ce duo qui va souvent ensemble. Hein, et aujourd'hui, clairement, c'est une perte de réflexe, une euphorie qui vous donne l'impression qu'on peut rouler encore plus vite. C'est donc du coup finalement une perte de réflexe, comme je disais, qui va entraîner une distance de freinage et une distance d'arrêt qui est plus importante, donc qui est favorable à des chocs et à des accidents graves. Donc aujourd'hui, clairement, l'alcool et le stupéfiant font partie des gros fléaux de la route, surtout en période, surtout le week-end et également en période estivale, ça se renforce. Donc nous, c'est fait partie de nos grandes préoccupations et de nombreuses actions que l'on peut mener de sensibilisation, à la fois les opérations SAM que l'on va mener conjointement avec des établissements de nuit, mais également des actions aussi dans les entreprises, des actions dans les écoles, dans les collèges, où on va faire des actions de sensibilisation pour leur faire prendre bien conscience déjà de ce qu'ils consomment, parce qu'on a souvent une mauvaise image de ce qu'on consomme. On sait qu'à peu près on a le droit de boire 2 verres, mais en fait ce qu'on oublie, c'est que ces verres sont des verres dits des doses bar, c'est-à-dire des doses que l'on nous sert dans un bar, qui est théoriquement réglementé. Et au final, quand on fait le petit atelier avec les jeunes et les moins jeunes, on se rend compte qu'on est très généreux quand on est à la maison, et que finalement une dose bar à la maison devient vite 2, voire 3 doses. Et donc on repart de chez quelqu'un à chez qui on a bu 2 verres, prenant un petit apéritif, et au final on a bu en vrai 4 doses bar, voire 5 doses bar. Et donc on est largement au-dessus des 0,50. Donc au-delà du fait qu'on peut avoir une amende, bon ça c'est une chose, mais c'est surtout qu'on peut avoir un accident et se mettre en danger ou mettre en danger quelqu'un en face. Voilà. Donc c'est ce type de sensibilisation qu'on mène régulièrement.
Et vous, Monsieur Houdin, à travers l'escadron départemental de la sécurité routière, comment sensibilisez-vous les jeunes conducteurs ?
Alors nous aussi, on a des actions, hein, on peut avoir des actions dans les foires, dans les salons, auprès des jeunes, tout simplement sur des échanges. On peut intervenir aussi dans les établissements scolaires. Et on intervient, alors là je précise, c'est pas forcément que pour les jeunes, on s'adresse aussi aux entreprises, par exemple, qui nous sollicitent pour des problématiques particulières. Et donc on peut effectivement venir faire un petit exposé, un petit échange sur les risques routiers, quel que soit le thème choisi. Et pour les plus jeunes, je dirais que là, je vais complètement dans le sens de Monsieur Kamgra, encore une fois, hein, en disant peut-être qu'il faut les sensibiliser finalement le plus tôt possible, dès l'instant où ils commencent à faire du vélo, quoi. Hein, et plus on commence tôt, plus on a de chances effectivement d'avoir des jeunes qui soient conscients des risques routiers.
La consommation de drogue et d'alcool, elle est plus importante pendant les vacances et d'été, bien sûr. Vous avez un constat par rapport à ça?
Alors pour ma part, j'aurais tendance à dire que oui, hein, bien évidemment, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que les gens en vacances ont le sentiment que on peut se relâcher, puisque c'est justement les vacances sont faites pour ça. D'ailleurs, c'est l'occasion donc pour avoir des soirées un peu plus festives, arrosées, fréquenter les discothèques, etc. Donc fatalement, oui, les vacances sont des périodes où on constate plus de consommation de stupéfiants ou d'alcool. Ouais.
Et est-ce que vous avez quelques conseils à nous communiquer en période de canicule pour des longs trajets? Alors on sait qu'en plus il commence à faire très chaud. Est-ce que vous avez des conseils pour les conducteurs, conductrices qui donc seraient sur la route, les routes et autoroutes de notre département et puis de la région, puisque ça sert un peu partout vu qu'il fait chaud en ce moment?
Oui, des conseils, évidemment, lorsqu'on doit faire un trajet qui soit long ou moins long, d'ailleurs, il faut avoir en tête qu'il faut pouvoir s'hydrater régulièrement. Donc, de partir avec des bouteilles d'eau, c'est la base, ça paraît évident, mais c'est parfois oublié. Donc, je le rappelle, le mieux, c'est surtout quand on a des enfants à bord. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, primordial quand on fait un long trajet, c'est s'arrêter régulièrement, à la fois pour prendre l'air, pour se dégourdir les jambes, aller dans des endroits aussi qui sont un peu climatisés, même si aujourd'hui les véhicules le sont également. Mais et puis surtout si on est dans un bouchon, finalement on ne se rend pas compte, mais les véhicules chauffent énormément, donc c'est aussi finalement de ménager sa monture et laisser à son véhicule le temps de se refroidir un peu de temps en temps. Donc c'est un conseil que je peux donner aussi.
Quels sont les facteurs les plus meurtriers sur les routes et autoroutes ?
Nous concernons, moi je dirais que c'est les facteurs connus, hein, donc alcoolémie, vitesse, somnolence, on en a parlé, distance de sécurité aussi sur autoroute. Voilà. Et puis le téléphone au volant qui multiplie quand même par 4 le risque d'accident sont les principaux facteurs, je dirais.
Alors, est-ce qu'il faut être plus prudent sur un trajet de vacances que sur un autre trajet quotidien ?
moi j'ai envie de dire qu'il faut être tout le temps prudent en voiture, en vélo, à pied, en trottinette, et être tout le temps dans une vigilance dès qu'on prend la route et qu'on va sur une zone où on est finalement dans le partage de la voirie et où il faut être vigilant à soi et vigilant aux autres tout le temps. Il est clair que partir sur un long trajet, on n'est pas forcément habitué, on peut être distrait au sein du véhicule par les passagers, si on a souvent l'habitude de rouler seul. On peut parfois des fois avoir des familles qui partent avec leurs animaux de compagnie, etc. Donc c'est sûr que là, il y a une vigilance qui doit être accrue au sein de l'habitacle. Mais vous savez, les trajets domicile-travail, c'est souvent des trajets aussi. C'est la plus forte, c'est plus fort, le mot m'échappe, mais c'est, en entreprise, les accidents de travail, c'est la plupart du temps, et la majeure partie du temps, le domicile-travail. Donc c'est aussi sur un trajet où on a l'habitude de se déplacer qu'on a souvent le plus d'accidents, parce qu'on manque de vigilance. Donc j'ai envie de dire, tout le temps, dès qu'on prend la route, soyons vigilants.
Et on va donc aussi parler maintenant du Covid-19. On en a entendu parler depuis quelques mois, malheureusement. Est-ce que ce confinement et ce Covid-19, alors on l'a constaté notamment juste après le déconfinement, est-ce qu'il aura un impact alors sur les départs en vacances, et puis est-ce qu'il a un impact aussi sur les accidents et sur la vitesse aussi, puisqu'on a constaté beaucoup d'excès de vitesse, il me semble, juste après le déconfinement. Alors je vais peut-être commencer avec le capitaine Houdin.
Oui, alors l'impact du Covid-19, bon, alors sur le nombre, je ne serais pas en mesure de vous répondre. Je crois que plus on parlait de bison futé tout à l'heure, annonce quand même le week-end prochain en rouge, donc on peut penser qu'il va y avoir du monde. C'est pas qu'on peut penser, c'est qu'il va y avoir du monde sur les routes. Par contre, sur l'attitude, oui, clairement, je pense qu'il va y avoir effectivement un impact. Un sentiment de besoin de relâchement, on l'a évoqué tout à l'heure aussi. Et donc, dès le début de la phase de déconfinement, on l'a constaté avec des vitesses excessives, une augmentation importante des dépassements de plus de 50 km/h. Donc là, on aura un peu moins de dépassements comme ça de 50 km/h, puisque forcément, s'il y a des bouchons, on ne va pas avoir des vitesses aussi excessives. Mais on peut s'attendre à des gens qui vont avoir un comportement accidentogène parce que pressés d'arriver, pressés de déconfiner, de se relâcher, quoi.
Fin mai 2020 est sortie une nouvelle réglementation concernant diverses dispositions en matière de sécurité routière. Pouvez-vous nous en parler ?
Si vous voulez, je peux effectivement vous apporter un bout de réponse là-dessus. En fait, ce qui a changé depuis mai 2020, c'est ni plus ni moins en fait que la continuité de la loi d'orientation des mobilités. Donc on a eu déjà un premier changement en début d'année 2020. Et qui s'accentue effectivement depuis le 22 mai, très exactement, avec des nouvelles mesures, notamment la rétention du permis de conduire pour les conducteurs qui tiennent un téléphone en main et qui commettent en même temps une infraction au code de la route en matière de règles de conduite, vitesse, croisement, dépassement, intersection, etc. Donc cette rétention pourra être suivie d'une suspension du permis de conduire.
Pendant 6 mois.
C'est une des premières mesures. Voilà, pour une durée maximale de 6 mois, oui, tout à fait. Donc on a une deuxième mesure là qui vient d'être mise en œuvre, qui est l'allongement de 6 mois à 1 an de la durée maximale d'obligation de ne conduire uniquement un véhicule équipé d'un éthylotest anti-démarrage, lorsque la mesure est prise comme alternative à la suspension du permis. Et puis une autre mesure phare, je dirais, la suppression de l'obligation de l'éthylotest dans son véhicule, en contrepartie le renforcement de l'obligation de mise à disposition dans les établissements de nuit. Voilà. Pour ce qui est, je dirais, vraiment les mesures phares actuelles, quoi. Maintenant, je vous en ai parlé tout à l'heure, début d'année, il y avait déjà eu effectivement une première série de mesures que je pense utile de rappeler aussi, c'est le placement immédiat des véhicules en fourrière pour les auteurs d'infractions graves au niveau du code de la route. Donc on a la possibilité d'immobiliser immédiatement et de mettre en fourrière un véhicule pour une durée de 7 jours en cas de conduite sous l'emprise d'alcool, de stupéfiants ou de vitesse excessive, comme je vous le disais tout à l'heure, à plus de 50 par exemple. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Nous arrivons déjà au terme de donc, cette émission Sur ma route. Je rappelle donc en invité, nous avions donc le capitaine Houdin, donc pour l'escadron départemental de sécurité routière de Vaucluse. Et nous avions aussi Monsieur Capgras, donc le directeur régional de la prévention routière Provençale-Côte d'Azur. Juste avant de se quitter, peut-être, vu que le thème général de cette émission, c'était Sur ma route, les vacances au volant, est-ce que, capitaine Houdin, est-ce que vous auriez un conseil avant le départ en vacances pour les auditeurs qui nous écouteraient, quel serait le conseil que vous leur formuleriez?
Bah écoutez, pour moi, ce serait tout simplement de leur dire que le trajet fait partie des vacances. Ne pas considérer qu'ils sont en vacances seulement quand ils arrivent sur leur lieu de réservation, mais dès l'instant où ils quittent le domicile, qu'ils considèrent effectivement que ce trajet en fait partie, et donc on le prend avec beaucoup plus de philosophie, de patience, et ça facilite les trajets. Voilà.
Et pour Monsieur Capgras, est-ce que vous auriez un conseil, vous aussi?
Oui, je m'inscris dans cette ligne également, hein, c'est de bien dormir et de rester zen une fois qu'on est dans la voiture, puisque effectivement c'est les vacances et on prend le temps et on reste zen.
Dernière question que j'ai à vous poser. On parle souvent répression pour la gendarmerie, mais je pense qu'il n'y a pas qu'un rôle de répression. C'est important de le souligner, je pense.
Oui, bah, tout à fait. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, au début de l'émission, on a des actions de prévention, avec des actions de reprise de guidon. Donc il s'agit pour nous, en fait, pour les motards, de leur présenter la trajectoire de sécurité, parce que c'est aussi une des problématiques de l'accidentologie moto. Donc on leur présente la trajectoire de sécurité pour qu'ils puissent rouler sur les routes, et plus particulièrement les routes sinueuses, en toute sécurité. D'autres actions, bah, les courses cyclistes, on a aussi pas mal de courses sur le Mont Ventoux qu'on doit encadrer, jalonner, et là encore ça fait partie quelque part de la sécurité routière, parce qu'on assure non seulement la sécurité des coureurs, mais aussi la sécurité des usagers le temps du passage de cette course, quoi, hein, voilà.
Et bien, en tout cas, merci, c'est sur ces mots que donc, nous allons clôturer cette émission Sur ma route, donc les vacances au volant, c'était le thème de cette émission. Je rappelle qu'elle était en partenariat avec la préfecture de Vaucluse. Nous allons vous souhaiter un bel été. Soyez prudents sur les routes et autoroutes du département et de la région, puis même si vous allez un peu ailleurs en France. Merci donc à Monsieur Capgras, donc directeur régional de la prévention routière Provençale-Côte d'Azur. Donc c'est une association, c'est important de le préciser. Et le capitaine Houdin, donc de l'escadron départemental de sécurité routière de Vaucluse. Merci à vous deux. Merci aussi à Dorcas et à Alexandre. Et puis donc on vous souhaite un très très bel été à l'écoute d'RTVFM et à bientôt. Au revoir. RTVFM vous a présenté l'émission Sur ma route, réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse.